Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h ici à Paris.
Raphaël Rennes.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour votre journal en français facile, en compagnie ce soir de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Des appels au calme venus du monde entier après les affrontements de la nuit dernière à Jérusalem. Plus de 200 blessés. De nouvelles manifestations annoncées pour aujourd'hui font craindre une escalade de la violence.
L'Union européenne et l'Inde relancent leurs négociations commerciales. Un sommet virtuel s'est tenu entre New Delhi et les dirigeants européens réunis à Porto. Nous appellerons Anthony Latier au Portugal.
Et puis l'Algérie célébrait aujourd'hui sa première journée de la mémoire. Hommage non pas aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais à celle de la répression des manifestants indépendantistes algériens par les autorités françaises le 8 mai 1945.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Les appels au calme se sont multipliés dans le monde entier ce samedi après une nuit de violence sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Plus de 200 Palestiniens ont été blessés par les forces de sécurité israéliennes. Une brusque flambée de violence, notamment due à la situation dans un autre quartier de Jérusalem-Est, celui de Sheikh Jarrah. C'est là que des familles palestiniennes risquent d'être expulsées de leur logement au profit de colons israéliens. Une audience de la Cour suprême israélienne est prévue lundi pour examiner ce que le ministre des Affaires étrangères d'Israël qualifie de différends fonciers entre parties privées, autrement dit une simple histoire de propriété immobilière. Mais pour l'historien Vincent Lemire, les Palestiniens, eux, vivent cette affaire comme une seconde expulsion.
L'affaire de Sheikh Jarrah, c'est effectivement quelque chose qui couve depuis très très longtemps, depuis des années, mais là qui s'est encore réveillé ces dernières semaines. Alors effectivement, elle est présentée du côté israélien comme un conflit immobilier, comme un litige immobilier, parce que la Cour suprême va rendre en fait un avis en s'appuyant sur le fait qu'il y avait peut-être, sans doute, et c'est sans doute vrai, certaines de ces parcelles qui appartenaient à des propriétaires juifs avant 1948. Vous imaginez bien que pour des Palestiniens, cet argument est difficilement acceptable, puisque les 750 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur propriété avant 48 ne bénéficient pas de ce droit immobilier rétroactif. Donc c'est vrai que l'affaire de Sheikh Jarrah, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sensible du côté palestinien. C'est des familles qui vivent là depuis longtemps et c'est des familles qui, pour la plupart d'entre elles, sont elles-mêmes de réfugiés en fait des anciens quartiers arabes de Jérusalem-Ouest. Donc ce serait une sorte de deuxième éviction.
L'historien Vincent Lemire, directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, était l'invité de RFI ce samedi à la mi-journée.
Au moins 40 morts et plusieurs dizaines de blessés en Afghanistan.
C'est le bilan de plusieurs explosions survenues devant une école de Kaboul, dans l'ouest de la capitale afghane plus précisément. Plusieurs explosions simultanées, il s'agit donc très probablement d'un attentat qui n'a pas été revendiqué pour l'instant. Le président afghan attribue l'attaque aux talibans qui, eux, démentent toute implication.
Journée de protestation et de violence au Tchad.
La coordination citoyenne Wakit Tama appelait à des marches dans tout le pays pour protester contre les autorités de transition instaurées après la mort du président Idriss Déby Itno. La police tchadienne a dispersé les quelques rassemblements à l'aide de gaz lacrymogène et à balles réelles. Le bilan provisoire communiqué par le mouvement citoyen fait état de dizaines de blessés, dont trois graves et d'une cinquantaine d'arrestations.
Ils sont déterminés à mettre en œuvre un socle européen des droits sociaux.
Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne étaient réunis en sommet informel au Portugal depuis vendredi soir. Ils ont adopté une déclaration, une proclamation qui contient 14 engagements très généraux sur l'emploi, l'éducation, la formation, la réduction de la pauvreté, mais aucun chiffre. Emmanuel Macron assure pourtant qu'il ne s'agit pas que d'un chapelet de bonnes intentions.
Et puis un sommet virtuel s'est tenu entre l'Union européenne et l'Inde.
Et là, les deux parties annoncent la reprise des négociations sur un accord commercial, des négociations qui avaient été interrompues en 2013. Anthony Latier.
Si l'Inde et l'Union européenne se reparlent, c'est parce qu'ils y ont intérêt tous les deux. Les Européens comptent sur le géant indien pour faire contrepoids à l'influence de la Chine. New Delhi, de son côté, a besoin de se trouver de nouveaux alliés. Je suis heureux d'annoncer que nous avons ouvert un nouveau chapitre important dans nos relations, s'enthousiasme le président du Conseil européen Charles Michel. Nous sommes les deux plus grandes démocraties au monde et nous avons aujourd'hui fait un pas concret pour accroître notre partenariat stratégique. Un pas concret, mais un petit pas malgré tout. Il ne faut pas s'attendre à la signature d'un accord de libre-échange d'ampleur prochainement, tempère une source diplomatique française. L'Inde et les 27 ont d'ailleurs affiché leurs divergences dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Alors que la situation est catastrophique dans son pays, Narendra Modi a demandé la levée des brevets sur les vaccins, alors que les Européens ont été très clairs pendant le sommet. Ça n'est pas la solution magique pour répondre à la crise, a expliqué Charles Michel. Anthony Latier, Porto RFI.
L'Europe commande 1,8 milliard de doses supplémentaires du vaccin Pfizer.
La Commission européenne a approuvé un contrat pour 900 millions de doses et une option sur 900 millions de plus. D'autres contrats et d'autres technologies de vaccins anti-Covid suivront, ajoute la présidente de la Commission européenne.
En France, moins de contaminations, moins de cas positifs, moins de malades hospitalisés et plus de vaccinés.
Les chiffres officiels font état de 176 décès dus au coronavirus ce samedi. Le nombre de patients hospitalisés en service de soins intensifs a de nouveau baissé. Ils sont un tout petit peu plus de 5000 à être en réanimation.
C'est une première. L'Algérie commémorait ce samedi la journée nationale de la mémoire.
Cette journée du souvenir, décidée il y a un an par le président Abdelmadjid Tebboune, va désormais honorer tous les ans les victimes de la répression sanglante lancée le 8 mai 1945 par la France contre des manifestants indépendantistes. Les explications d'Esdras Nikoumana.
Il s'agit d'une commémoration historique. Pour la première fois depuis 1945, l'Algérie honore officiellement les milliers de victimes de cette répression sanglante. Les festivités officielles ont eu lieu dans la ville de Sétif, 300 km à l'est d'Alger, qui a été alors l'épicentre de ces violences. Et 66 ans après les faits, l'Algérie ne lâche rien. Il a encore rappelé son exigence d'une repentance, c'est le mot utilisé, repentance de la France pour les crimes commis durant les 132 ans de colonisation qu'il a subis, et cela malgré une série d'actes symboliques engagés depuis quelques mois par le président français Emmanuel Macron afin de tenter de réconcilier les mémoires entre les deux pays. Le porte-parole du gouvernement algérien lui a concédé aujourd'hui des acquis certes modestes, mais d'une grande valeur morale. Amar Berhimer cite notamment la récupération des crânes de nationalistes tués au début du colonialisme. Mais il a été, on ne peut plus clair, je cite, « L'Algérie reste attachée au règlement global du dossier mémoriel qui doit reposer selon lui sur la reconnaissance officielle, définitive et globale par la France de ses crimes, la repentance et des indemnisations équitables », fin de citation. Autre dossier au cœur du contentieux entre les deux capitales, celui des essais nucléaires que la France a réalisés dans le Sahara algérien entre 60 et 66, Alger exige également la prise en charge des conséquences de ces explosions pour solder définitivement le dossier mémoriel.
L'Écosse fait un pas vers l'indépendance.
Les indépendantistes devraient être majoritaires dans le nouveau Parlement du pays. C'est en tout cas ce qu'affirme la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, qui est également la chef du parti indépendantiste écossais. Son mouvement n'a pas la majorité absolue, mais pourra s'allier avec les écologistes qui soutiennent eux aussi la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni.
Trois personnes mises en examen dans l'est de la France pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Ce sont trois membres d'un groupe néo-nazi qui projetait de commettre un attentat contre une loge des francs-maçons. Les détails avec Sylvie Coffi.
Honneur et Nation, c'est le nom de ce groupe d'ultra-droite. Depuis février dernier, il est dans le collimateur du parquet national antiterroriste. Des échanges entre ses membres ont été interceptés. Il faisait des recherches sur Internet sur l'utilisation d'explosifs. Les enquêteurs soupçonnent trois personnes du groupe, deux hommes de 29 et 56 ans et une femme de 53 ans, d'avoir voulu commettre un attentat contre une loge maçonnique située en Moselle, dans le nord-est de la France. Lors de la perquisition, les policiers ont mis la main sur des écrits qui font peut-être le lien avec une autre affaire, celle de l'enlèvement rocambolesque de la petite Mia, retrouvée saine et sauve en avril dernier. Selon une source proche du dossier, certains membres de ce réseau auraient été en contact avec Rémi Daillé, figure du mouvement complotiste français soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de la fillette. Plusieurs enquêtes antiterroristes liées à la mouvance de l'ultra-droite sont en cours actuellement. Un mouvement qui, selon Laurent Nunez, coordonnateur du renseignement, représente entre 1000 et 1500 personnes en France.
Sylvie Coffi, c'est la fin de ce journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Merci Sylvie.
Merci Raphaël.
Vous pouvez réécouter ce journal sur le site RFI Savoir, savoiraupluriel.rfi.fr, également sur notre application Pure Radio. Il est 20h10 en temps universel.
La marche du monde.